Ce soir, nous allons avoir le plaisir d'entendre Jean-Jacques Rosa, que je ne vais pas présenter, parce que je suppose que tout le monde ici le connaît. Il a choisi de traiter un sujet qui a trait au statut des expressions, Äußerungen, dans la philosophie de Wittgenstein, sous le titre « Expression, vérité et connaissance de soi, le néo-expressivisme de Dorit Bar-On ». Alors j'avoue que j'ai moi-même hâte de l'entendre parce qu'il va parler principalement d'un livre donc de Dorit Bar-On qui s'appelle « Speaking My Mind, Expression and Self-Knowledge ». Donc le « Parler mon esprit » littéralement, « Expression et connaissance de soi ». J'ai hâte de l'entendre parce que je dois vous avouer que je n'ai pas lu ce livre et je suis très impatient de savoir ce qu'il y a dedans. Vous avez la parole.
Merci. Comme vous en êtes peut-être aperçu à l'exposé que j'avais présenté début janvier, la question qui me préoccupe concernant l'usage de Wittgenstein, c'est au fond l'usage, ou plutôt le peu d'usage, qui en est fait par la philosophie analytique de l'esprit. C'est une situation un petit peu paradoxale, parce que Wittgenstein est considéré par cette tradition comme un auteur majeur, et en même temps, une grande partie de son œuvre est consacrée à la philosophie de la psychologie, et au sein de la philosophie analytique de l'esprit, qui est florissante, on ne fait guère usage de ses idées. Je pense qu'il y a deux raisons, parmi d'autres, il y en a sûrement plus, mais la première, c'est que les idées de Wittgenstein sont considérées souvent comme n'ayant ni un degré de précision technique, ni une forme argumentative, ou ni la forme argumentative qui est requise aujourd'hui pour pouvoir être prise en compte et discutée. Elle apparaît comme trop sujette à interprétations diverses, voire contradictoires, pour entrer dans le corpus des thèses qui méritent d'être discutées, étant donné la forme de discussion qui est celle qui est dominante aujourd'hui dans la philosophie analytique. Et aussi, sans doute, c'est la deuxième raison, je pense, y a-t-il un hiatus entre la démarche grammaticale, proprement dite, telle qu'elle est pratiquée par Wittgenstein, et l'approche dominante en philosophie de l'esprit contemporaine qui, même quand elle a recours à l'analyse conceptuelle, pose d'emblée ses problèmes dans des termes ontologiques ou épistémiques ou sémantiques ou généralement une combinaison des trois qui ne laisse guère de place à l'analyse grammaticale qui, en général, s'efforce de venir en amont de ces problèmes éthiques-là. Alors, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, dont j'ai fait la découverte, j'avoue, très récemment, me paraît un exemple intéressant et fécond, me semble-t-il, d'utilisation de certaines idées de Wittgenstein par une philosophe contemporaine de l'esprit. Il s'agit donc, vous l'avez sur le petit papier qui vous a été distribué, d'un livre d'une philosophe qui est professeure en Caroline du Nord, dans l'université de Chapel Hill, qui s'appelle Dorit Bar-On. Et le titre, effectivement, c'est « Speaking my mind ». Il faudrait traduire « parler mon esprit », à la fois « dire ce que je pense » et « dire ce que je sens », on pourrait le dire comme ça, « Expression and self-knowledge », qui est paru en 2004 et que je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas l'avoir connu plus tôt. Alors, ce livre porte exclusivement sur un problème fondamental qui est celui des « avowals ». Je vais garder le terme anglais, parce que c'est devenu le terme technique et que je ne vois pas d'équivalent en français. Il s'agit des énoncés psychologiques ou des déclarations, peut-être que déclaration serait le moins mauvais équivalent, les déclarations psychologiques en première personne et au présent du type « j'ai mal aux dents », si à ce moment-là j'ai mal aux dents, « j'ai peur du chien », « je crois qu'il va pleuvoir demain », etc. Ce que Wittgenstein, de manière un petit peu technique, lui aussi, a appelé des « Äußerungen ». Ce sont donc des déclarations par lesquelles un sujet s'attribue en première personne un état mental au moment même où il les a. Où il a cet état, pardon. Alors on peut les classer très sommairement en trois classes. Il y a des avowals qui sont phénoménaux. J'ai mal, je suis triste, j'ai soif. Autrement dit, qui n'ont pas de contenu intentionnel. Et puis, il y a ceux qui ont un contenu intentionnel, lequel peut être marqué soit par la mention d'un objet, « j'ai peur du chien »,« je pense aux vacances », ou bien avoir un contenu propositionnel, parle dans le jargon à ce moment-là, Dauwels constitué d'un verbe exprimant une attitude propositionnelle plus un contenu propositionnel. Je crois qu'il va pleuvoir, j'espère qu'il viendra. Alors ces Dauwels forment une classe d'énoncés qui semble bénéficier de ce que l'auteur nomme, en utilisant au départ un terme un peu neutre, une sécurité épistémique toute particulière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il semble, sinon infaillible, du moins beaucoup plus fiable que les jugements ordinaires. Ils paraissent à première vue indubitables du point de vue du locuteur et incontestables du point de vue de l'auditeur. Et ils contrastent à cet égard avec les énoncés non psychologiques en première personne. J'ai une voiture, j'ai le bras cassé. Quelqu'un peut toujours me dire, mais non, tu te trompes, ta voiture a été volée, tu ne l'as plus, ou on fait une radio de mon bras, non, non, il n'est pas cassé, c'est autre chose, enfin bon. Énoncé psychologique à la troisième personne, il a mal, il croit qu'il va me pleuvoir, je peux me tromper dans l'interprétation des signes donnés par quelqu'un, par exemple, de douleur, ou je crois être des signes de douleur. Ou bien encore, il contraste avec les énoncés psychologiques à la première personne au passé. Hier, j'ai eu mal aux dents. La semaine dernière, j'espérais qu'il viendrait. Quelqu'un peut me contredire en me disant « Mais non, ce n'est pas hier, c'est avant-hier, tu te trompes, tu commets une erreur de mémoire, etc. » En revanche, il semble avec les... Je reviendrai avec plus de précision là-dessus tout à l'heure. Je fais qu'une description un petit peu générale et un petit peu neutre volontairement. En revanche, il semble que... ces énoncés psychologiques en première personne au présent sont indubitables, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas pour moi de place au doute. Il n'y a pas de doute au moment où je dis ou pense que j'ai mal parce que je sens une douleur, de me demander mais est-ce que c'est bien une douleur et est-ce que ce n'est pas de la joie. Et il n'y a pas non plus de place pour la contestation. Il est très rare et qu'on se retrouve dans des circonstances où quelqu'un aurait de bonnes raisons de me dire « Es-tu sûr que véritablement... tu es triste ou es-tu sûr véritablement que tu es joyeux ? » Alors, il y a deux manières, principalement, il y a deux familles de pensées, en gros, sur la question de savoir comment rendre compte de cette sécurité épistémique. La première, la plus classique, celle qui est dominante en philosophie de l'esprit contemporaine, mais qui a de solides lettres de noblesse, puisqu'elle remonte en fait à Descartes, est ce qu'on peut appeler une approche épistémique, ou plutôt ce que l'auteur appelle une approche épistémique. Selon cette approche, dit-elle, nous devons expliquer la sécurité des Dauwels en appelant à la sécurité des bases épistémiques sur lesquelles ils sont émis. Si les Dauwels sont particulièrement sûrs, c'est parce qu'ils sont ou expriment des jugements sur nous-mêmes auxquels nous sommes arrivés par une route épistémique particulièrement sûre ou en déployant une méthode ou une procédure épistémique particulièrement sûre. C'est par exemple ce que nous avions vu au mois de janvier quand je vous avais parlé d'un certain nombre de philosophes matérialistes contemporains qui considéraient qu'il y avait des dispositifs physiologiques et psychologiques à la fois qui faisaient que par introspection, je ne peux pas me tromper, par exemple, sur la douleur que j'ai ou sur telle ou telle sensation que je peux avoir. Donc dans ce cas-là, si les Dauwels sont particulièrement sûrs, c'est parce qu'ils représentent des jugements bien fondés concernant les états mentaux présents des sujets. Et puis il y a l'approche expressiviste, dont les bases, peut-on dire, ont été posées par Wittgenstein. Alors on peut rappeler très brièvement, je suppose ces choses-là un petit peu connues, les trois idées principales, les trois intuitions fondamentales de Wittgenstein sur la question. Premièrement, c'est que les Dauwels ou les Äußerungen ne sont pas des moyens de rendre compte de nos états mentaux, mais des moyens de les exprimer. Ce ne sont pas des comptes rendus, ce sont des expressions. Formule célèbre de Wittgenstein dans les remarques sur la philosophie de la psychologie. Les verbes psychologiques caractérisés par le fait que la troisième personne du présent doit être identifiée par observation, la première, non. Phrase à la troisième personne du présent, information. À la première personne, expression. Il y a tout de même cette fameuse petite parenthèse, ce n'est pas tout à fait cela. Stimmt nicht ganz. Deuxièmement, ils ont une forte parenté avec les expressions comportementales non-verbales. Alors, je cite le fameux paragraphe 244 des recherches philosophiques, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a peut-être, c'est une des idées sur laquelle je reviendrai, peut-être été, sur laquelle les commentateurs et les continuateurs de Wittgenstein se sont peut-être un peu trop exclusivement focalisés. Comment un homme apprend-il la signification des noms de sensations, du mot douleur par exemple ? Eh bien, voici une possibilité, que les mots soient reliés à l'expression. Ici, c'est Ausdruck. À l'expression originelle, naturelle de la sensation, et qu'il la remplace. Un enfant s'est blessé, il crie, et alors les adultes lui parlent. Ils lui apprennent des exclamations et plus tard des phrases. Ils enseignent à l'enfant un nouveau comportement de douleur. Alors évidemment, il y a l'interlocuteur ici qui ne comprend pas très bien et qui demande à Wittgenstein « Tu dis donc que le mot douleur signifie en réalité crier ?» Il propose une interprétation behavioriste de ce que Wittgenstein vient de décrire. Et Wittgenstein précise « Je dis au contraire que l'expression verbale, Wort Ausdruck, de la douleur, remplace le cri qu'elle ne le décrit pas. » Donc, et troisième idée qu'on retrouve dans beaucoup de textes de Wittgenstein, il n'y a pas de sens à dire « je sais que j'ai mal » ou « je sais que j'y crois »,« je sais que je crois », dans la mesure où, si on définit la connaissance, comme une croyance justifiée, ce sont précisément les énoncés comme « j'ai mal » ou « je crois qu'il pleut » n'ont pas de justification. Alors, à partir de ces textes de Wittgenstein, s'est développée une interprétation donc expressiviste des Auerwolfs. Mais selon une interprétation qui a été celle de départ, apparemment celle de Strawson et de Malcolm, mais interprétation qui a beaucoup influencé la réception du texte de Wittgenstein et qui influence encore une bonne partie du commentaire ou des développements faits à partir de Wittgenstein, les Auerwolfs, puisqu'ils ressemblent à des comportements non-verbaux, à des comportements expressifs, grimaces, mouvements du corps, etc., ne seraient pas des énoncés susceptibles d'être vrais ou faux. Ce ne seraient pas des assertions au sens strict, ou ce ne seraient pas des attributions. Alors cette thèse, dans sa variante forte, n'a peut-être plus beaucoup de partisans aujourd'hui. Peut-être Daniel Moyal, dans certains de ses articles, à propos d'une certaine classe, en tout cas d'Auerwolfs. Mais on trouve ce que j'appellerais des versions faibles ou édulcorées, plus ou moins, de cette thèse, notamment dans l'interprétation dominante de la philosophie de Wittgenstein, celle de Hacker, et qu'on peut appeler l'interprétation Auerwolfs description, c'est-à-dire qui contraste Auerwolfs et description. Alors, Hacker ne nie pas expressément que les Auerwolfs sont susceptibles d'être vrais ou faux, mais il a une telle insistance sur la proximité entre Auerwolfs et comportements expressifs, d'une part, et sur le fait que ce ne sont pas des descriptions, qu'on peut lui reprocher tout de même de rendre à peu près incompréhensible que les Auerwolfs soient susceptibles d'être vrais ou faux, ou tout au moins de ne pas expliquer comment ils peuvent l'être. Et il y a aussi, me semble-t-il, une forte prégnance de l'expressivisme simple chez Descombes, quand il explique, par exemple, dans son article sur Wittgenstein face au paradoxe de Moore, que les Auerwolfs ne sont pas, à proprement parler, des attributions. Ça ne peut pas être des auto-attributions, puisque ce ne sont pas des attributions. Alors, la thèse de l'expressivisme simple, dans toutes ses variantes, se heurte à une difficulté majeure de la vie de l'auteur du livre, et je dois dire aussi du mien. Elle implique la rupture de ce que Dorit Bar-On appelle la continuité sémantique entre les énoncés qui sont des Auerwolfs et ceux qui n'en sont pas. La continuité sémantique, on peut la définir comme l'interchangeabilité salva veritate et en contexte des Auerwolfs avec des énoncés susceptibles d'être vrais ou faux. J'explique. Par exemple, les Auerwolfs entrent dans des relations logiques avec des propositions qui sont des propositions authentiques. Par exemple, si quelqu'un dit « j'ai mal », cela implique que quelqu'un a mal. Ils entrent dans la composition de propositions complexes qui sont vraies ou fausses. Par exemple, « il sait que j'ai mal ». Or, la valeur de vérité de cette proposition, qui est une proposition, dépend de la valeur de vérité de ses composants, des propositions qui la composent. Ou encore, « si j'ai mal », je ferais mieux de prendre de l'aspirine. Il faut bien que la valeur de vérité du j'ai mal, du conditionnel, soit déterminée. Et puis, plus fondamentalement, Gemal et J.J.R. Amal ont les mêmes conditions de vérité. Certes, ils n'ont pas les mêmes conditions de vérification, si tant est qu'on puisse dire que Gemal a des conditions de vérification, mais ils ont les mêmes conditions de vérité. Ils sont tous les deux vrais si l'individu que je suis, qui s'appelle J.J.R., est l'individu qui dit « j'ai mal », donc qui est l'individu qui dit « j'ai mal », a effectivement mal. Et donc, dans sa version forte, l'expressivisme est aujourd'hui très largement rejeté. Deux petites formules assassines de Crispin Wright. La proposition expressiviste, enfin, la thèse expressiviste est devenue plus ou moins considérée universellement comme un non-starter, un non-partant. Elle ne concourt pas, elle n'est pas, elle passe pas, elle passe pas les tests minimaux pour être une thèse discutable. Et plus encore, la thèse expressiviste vole un peu plus loin qu'on ne le pense généralement, mais c'est tout de même un canard mort. Alors, quelle est, face à cette situation, quelle est la stratégie néo-expressiviste que défend Dorit Baron? Je dirais qu'elle contient une thèse fondamentale et une thèse optionnelle. La thèse fondamentale, c'est l'idée qu'on peut rendre compte du privilège épistémique des états mentaux en s'appuyant sur l'idée expressiviste fondamentale. Les Auerwals ne sont pas des comptes rendus d'états mentaux, ils les expriment, tout en préservant la continuité sémantique, ce que ne font pas les interprétations expressivistes habituelles. Et il y a une thèse optionnelle. Il en résulte, pour Dorit Baron, qu'on peut bâtir une théorie des Auerwals qui soit compatible avec une conception substantielle, non déflationniste, de la connaissance de soi. Autrement dit, avec la thèse que les Auerwals expriment bel et bien des connaissances que nous avons sur nous-mêmes et participent de ce qu'on appelle classiquement la connaissance de soi. Alors, cette thèse, évidemment, semble incompatible à première vue avec l'idée wittgensteinienne selon laquelle il n'y a pas vraiment de sens à dire que je sais que j'ai mal. Alors, je laisserai ce soir de côté la thèse optionnelle et je me concentrerai sur la thèse obligatoire, sur la thèse fondamentale et sur la stratégie assez complexe, vous allez le voir, au moyen de laquelle Dorit Baron la met en place et sur les arguments ou sur un certain nombre des arguments au moyen desquels elle la défend. J'essaie de résumer d'abord, dans un premier temps, la stratégie néo-expressiviste pour que vous voyez comment elle procède. J'entrerai ensuite un peu plus dans le détail. Première étape, il faut caractériser un peu mieux qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Il faudra caractériser un peu mieux qu'on ne l'a fait jusqu'à présent la sécurité épistémique particulière dont jouissent les Auerwals. Et Baron propose de la caractériser comme une immunité à l'erreur. Immunité à l'erreur sur le sujet de l'Auerwal. Autrement dit, quand je dis j'ai mal, je ne peux pas faire d'erreur sur la question qui a mal. Et immunité à l'erreur sur l'état que le sujet s'attribue. Je ne peux pas faire d'erreur sur la question « qu'est-ce que j'ai ?». Mais si je ne peux pas faire d'erreur, si je ne peux faire d'erreur sur aucune de ces deux questions, ce n'est pas parce que j'aurai des bases sûres pour y répondre infailliblement, ça c'est plutôt ce que diront ceux qui ont l'approche épistémique, c'est parce que tout simplement, je ne me les pose pas et que les questions ne se posent pas. Nous sommes dans un espace, où, plus exactement, il n'y a pas d'espace pour ces questions-là. C'est donc, on va le voir, une caractérisation négative de la sécurité épistémique particulière des Auerwals. S'ils sont particulièrement sûrs, ce n'est pas parce qu'ils reposeraient sur des bases sûres, mais c'est parce qu'il y a des erreurs auxquelles ils ne sont pas exposés. Pour employer une image que je reprends à l'auteur, je donnerai la citation plus complète tout à l'heure, la sécurité des Auerwals ne viendrait pas de ce qu'ils emprunteraient une route sûre, elle vient de ce qu'il y a des routes qu'ils ne sont pas tentés d'emprunter. Mais évidemment, il faut rendre compte maintenant de cette immunité. Il ne suffit pas d'avoir dit qu'il y a immunité. Alors on peut essayer de la comprendre à partir de, justement, de l'expression comportementale naturelle de la douleur. Et c'est ce qu'en général, enfin de la douleur ou des états mentaux, des expressions comportementales naturelles, c'est-à-dire non-verbales, non-langagières. Et c'est effectivement ce qu'ont fait la plupart du temps les conceptions expressivistes. Quand je grimace de douleur, quand je me tords de douleur, j'exprime ma douleur, je l'extériorise, je la manifeste. Mon comportement en ce sens est signifiant, mais il n'a aucun trait qui relève de la sémantique, c'est-à-dire qu'on ne saurait pas dire que c'est un comportement qu'il réfère à quelque chose, ni qu'il a une valeur de vérité. Et donc, selon les différentes variantes de l'expressivisme simple, il en irait plus ou moins de même avec les Auerwals. Quand ils analysent une déclaration comme « j'ai mal à la tête » ou « je crois qu'il pleut », Anscombe, par exemple, soutient que « je » ne réfère pas, Descombes soutient que le locuteur n'opère aucune attribution, et Acker laisse entendre que cet énoncé n'est d'une certaine manière pas vraiment vrai ni vraiment faux. Alors, ces différentes variantes de l'expressivisme, elles reposent sur l'idée que pour rendre compte de l'immunité à l'erreur, il faudrait refuser aux Auerwals un certain nombre de traits sémantiques qui sont caractéristiques des énoncés attributifs ordinaires. Mais évidemment, ce faisant, il brise la continuité sémantique. Troisième étape. Selon Dorit Baron, les défenseurs de l'approche épistémique et ceux de l'expressivisme simple partagent un préjugé commun. L'idée qu'il ne pourrait pas y avoir de référence, et donc a fortiori pas d'attribution, vraie ou fausse, sans un acte de recognition, c'est-à-dire sans une identification cognitive aussi bien du sujet que de l'attribut, que de l'attribution, sans une identification cognitive aussi bien du sujet de l'attribution que de l'état qui est attribué. Alors, c'est vrai quand il s'agit d'énoncés ordinaires portant sur le monde extérieur. Pour que la phrase ou la proposition « le chat est sur le sofa » ait une valeur de vérité, il faut que mes expressions « le chat et le sofa » réfèrent à un animal et à un meuble déterminé. Et pour cela, il faut que je sois en mesure d'identifier cognitivement non seulement le chat par contraste avec un chien, mais aussi le chat en question par contraste avec celui du voisin, ou capable d'identifier un sofa par distinction avec, je ne sais pas moi, une chaise, et le sofa dont il est question dans la phrase, par contraste avec le sofa du voisin. Bon. Autrement dit, il faut qu'il y ait un espace pour des questions du type à qui le prédicat est-il attribué et quel prédicat est attribué. Or, nous l'avons vu à l'instant, ce sont précisément ces questions, les questions de recognition ou d'identification cognitive, qui, dans le cas des Auerwals, n'ont aucune place, n'ont aucun espace. Quand je dis « j'ai mal », il n'y a pas d'espace pour les questions « à qui est-ce que j'attribue la douleur ?» ou « qu'est-ce que je m'attribue ?» Mais les défenseurs de l'approche épistémique et ceux de l'expressivisme simple tirent de cette situation des conclusions diamétralement opposées. Les défenseurs de l'approche épistémique disent « puisque les Auerwals réfèrent et sont des attributions, cela montre que nous disposons de moyens infaillibles de recognition », et vous devenez cartésien ou vous faites de l'introspectionnisme matérialiste, par exemple, pour prendre deux options de l'approche épistémique, mais il y en a beaucoup d'autres. Et inversement, les défenseurs de l'expressivisme disent « puisqu'il n'y a pas de recognition, alors il n'y a pas ou il n'y a pas vraiment référence et il n'y a pas ou il n'y a pas vraiment attribution ». Et le néo-expressivisme, lui, soutient que les Auerwals ont tous les traits sémantiques des énoncés ordinaires, référence, attribution, valeur de vérité, sans présupposer pour autant un quelconque acte de recognition. Comment est-ce possible? Comment dissocier, parce que c'est bien ça la stratégie, le sémantique et l'épistémique, si vous voulez? On peut le faire, quatrième point, à condition d'articuler ensemble le sémantique et l'expressivité. Alors la solution, qui est le cœur du livre de Dorit Baron, elle repose sur la reconnaissance du caractère double des Auerwals. Ce sont, dit-elle, à la fois des actes expressifs, comme le sont les comportements naturels expressifs, mais aussi les produits de ces actes, qui, à la différence des comportements naturels expressifs, sont des énoncés de plein droit, dotés d'une structure sémantique et d'une valeur de vérité. Je cite, « En tant qu'actes accomplis par des sujets, les Auerwals ressemblent aux expressions naturelles, mais en tant que produits, ils ont une structure sémantique. » Donc ils ont un verso et un recto, ou un recto et un verso, si vous préférez. Le produit d'un acte d'Auving, à la différence d'un sourire ou d'une grimace de douleur, ou même d'une exclamation verbale, comme « ouche », est une auto-attribution sémantiquement articulée. Il est doté d'une structure sémantique et de conditions de vérité. Donc ce serait grâce à leur double nature d'acte expressif et de produit linguistique de ces actes, que les Auerwals peuvent référer être des attributions et avoir une valeur de vérité, donc être susceptible de véhiculer une connaissance de nous-mêmes, sans pour autant présupposer ni une forme quelconque de recognition, ni une voie d'accès cognitif privilégiée à nous-mêmes et à nos états mentaux. Donc, comme vous le voyez, selon la conception néo-expressiviste, le problème des auroworlds est bien posé comme un problème épistémique, tant au départ, il s'agit de rendre compte d'une sécurité épistémique, qu'à l'arrivée, il s'agit de montrer qu'ils peuvent, bon droit, être considérés comme les véhicules d'une forme de connaissance. Mais la solution de ce problème épistémique n'est pas elle-même épistémique. Elle passe par une dissociation du sémantique d'avec l'épistémique et par une articulation du sémantique avec l'expressivité. D'où l'intérêt, me semble-t-il, de ce livre pour notre problème de l'usage de Wittgenstein. Il est clair que la démarche de Dorit Baron se distingue nettement de la démarche de Wittgenstein, d'abord parce que son livre n'est pas du tout un livre d'exégèse. Elle cite par-ci, par-là, quelques textes classiques de Wittgenstein, mais elle ne prétend pas du tout donner ou prendre une position quant à l'interprétation de Wittgenstein. Elle ne se pose pas du tout la question de savoir si, par exemple, Wittgenstein est vraiment un expressiviste simple ou s'il a une théorie un petit peu plus sophistiquée. Elle a l'air de penser que c'est plutôt un expressiviste simple. Je ne serais pas d'accord là-dessus, mais bon, ce n'est pas du tout son propos. Deuxièmement, son point de vue n'est pas grammatical. Elle attribue même explicitement à une ou deux reprises l'échec de l'expressivisme simple au fait qu'il est purement grammatical. Et elle pose, je viens de le dire à l'instant, le problème des auroworlds comme un problème épistémique au départ comme à l'arrivée. En même temps, il y a évidemment une forte parenté avec la démarche wittgensteinienne et même une certaine influence. D'abord parce que très explicitement et très délibérément, elle le dit à plusieurs reprises, notamment au début de son livre, quand elle parle de sa méthode, il n'est pas question pour elle de partir du problème de la connaissance de soi, mais bien du problème du statut d'un certain type d'énoncé, d'une certaine classe d'énoncé. Et surtout, me semble-t-il, parce que la solution du problème qu'elle propose, c'est-à-dire la caractérisation du type de privilège épistémique qui est celui des auroworlds, et surtout l'explication de ce privilège, n'est pas épistémique et passe par une voie qu'on peut appeler exclusivement linguistique, puisqu'elle articule des considérations de sémantique et des considérations sur l'expressivité. Alors, l'intérêt de ce néo-expressivisme, à mes yeux, je vois au moins quatre raisons, en tout cas, de m'y intéresser, et peut-être de nous y intéresser. D'une part, c'est une tentative de traduction d'un certain nombre d'intuitions et d'arguments de Wittgenstein dans le langage, ou en tout cas wittgensteinien, dans le langage de la philosophie contemporaine. Autrement dit, elle s'efforce de porter la question d'origine wittgensteinienne des auroworlds au niveau de précision technique et de rigueur argumentative qui sont requis aujourd'hui. Deuxièmement, elle offre une version qui me semble assez crédible de l'expressivisme. Troisièmement, même si ce n'est pas son but, mais c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement, elle permet, ou son travail permet de relire utilement Wittgenstein en se demandant si pour rendre compte de ses intuitions et de ce qu'il a écrit, y compris de ses textes, le néo-expressivisme n'est pas un meilleur cadre que l'expressivisme simple. J'avais, des conférences que j'avais données, qui se trouvent sur le site du Collège de France, qui sont accessibles par Internet, j'avais essayé pour ma part, il y a déjà quelque temps, d'avancer des raisons de récuser, ou en tout cas de mettre quelques bémols à l'interprétation par Hacker des auroworlds, et en tout cas de refuser un expressivisme trop simple à Wittgenstein. Et puis, et ça je le montrerai surtout dans la troisième partie, ou la quatrième en fait partie de cet exposé, je pense qu'on peut essayer de prolonger et développer certaines idées qui sont contenues dans ce livre, mais qui sont, à mon avis, insuffisamment exploitées, et qu'on peut s'aider d'ailleurs pour cela d'un certain nombre d'idées qu'on trouve chez Wittgenstein. Il peut y avoir une réaction, une relecture de Wittgenstein qui aide à avancer plus loin à partir de ce livre. Alors, je reconnais que je ne suis pas du tout au bout de mes réflexions à partir de sur ce sujet et à partir de ce livre. Donc, ce que je vous présenterai garde un caractère assez, non achevé, voilà, en recherche. Alors, venons-en au premier point. Donc, c'est ma deuxième partie, de rentrer véritablement dans l'exposé des idées et des arguments de l'auteur. La question de l'immunité de la sécurité épistémique des Overwolves, qui est décrite par elle comme immunité à l'erreur. Alors commençons par essayer d'être un peu plus précis sur cette fameuse sécurité épistémique particulière. Dorit Bar-On, lui, essaie de la caractériser par quatre traits. D'abord, il y a ce qu'elle appelle, d'un terme encore volontairement un peu neutre, l'invulnérabilité épistémique. C'est le fait, dont j'ai déjà évoqué, que les Overwolves ne sont pas justifiés et ne requièrent aucune justification. C'est-à-dire qu'ils sont épistémiquement directs ou immédiats, ils ne s'appuient sur aucune observation, sur aucune preuve, sur aucune inférence, ce qui fait que du point de vue du locuteur, ils ont une relative indubitabilité, pas de place pour le doute, et du côté de l'auditeur, ils ont une relative incorrigibilité, pas de place pour des demandes de justification, de vérification ou de correction. Mais on peut traduire ça d'une manière peut-être un peu plus précise, comme le fait l'auteur, c'est le deuxième point, en parlant d'exclusion de la possibilité de l'erreur brute. Je trouve que ce n'est pas une mauvaise caractérisation. Elle définit l'erreur brute de la manière suivante. Une personne commet une erreur brute quand elle prend à tort, she mistakes, elle prend à tort, elle prend mal, elle prend de manière erronée, A pour B, ou quand elle prend à tort le fait que quelque chose a la propriété F pour le fait qu'elle a la propriété G, sans qu'il y ait pour autant de défaillance perceptuelle ou conceptuelle de sa part. C'est très simple, je peux avoir des capacités visuelles correctes, exercer correctement mes capacités cognitives à partir des informations visuelles qui me sont fournies, et cependant être victime d'une illusion, d'un mirage, d'une illusion d'optique, d'un leurre. Je vois un rouge-gorge dans le jardin, mais en fait, c'est un animal empaillé ou une farce quelconque. Bon. Les jugements de perception, par exemple, sont typiquement sujets à l'erreur brute, c'est-à-dire qu'il peut se trouver que, alors que toutes mes capacités visuelles et cognitives sont correctement exercées, que la manière dont le monde est démente mon affirmation. Et bien sûr, il est possible aussi dans ce cas que autrui démente mon affirmation. Donc l'invulnérabilité des Overwolves, c'est qu'ils ne sont pas sujets précisément à l'erreur brute. Troisième idée, mais sur laquelle je ne m'attarderai pas parce que ça m'entraînerait trop loin, la présomption de vérité. Quand quelqu'un émet un Overwolf, non seulement nous considérons qu'il y a une sorte d'invulnérabilité à l'erreur, mais nous présumons fortement que celui-ci représente une vérité concernant l'état dans lequel il est. Mais présomption n'est pas garantie, et c'est le quatrième point, les Overwolves ne sont pas infaillibles. Et il est très important pour l'auteur qu'ils ne le soient pas, parce que, d'une certaine manière, elle considère que les explications épistémiques du type cartésien, par exemple, accordent trop aux Overwolves, qu'elle leur attribue une infaillibilité qu'ils n'ont pas nécessairement. Trois exemples qu'elle prend, je les reprends chez elle. Chez le dentiste, je crie « j'ai mal » avant même qu'il m'ait touché. Autrement dit, je m'attribue une sensation que je ne peux pas éprouver en réalité. Donc on peut trouver des cas, ce sont des cas très, très particuliers, mais d'Overwolves phénoménaux qui peuvent être faux. Deuxième type d'exemple, classique, un père qui sait parce qu'il l'a appris de manière fiable, par exemple, que son fils est mort à la guerre, il peut en même temps dire, continuer de dire, je crois qu'il est vivant, c'est-à-dire s'attribuer sincèrement une croyance qu'il n'a pas en réalité, expression d'un wishful thinking, de prendre ses désirs pour des réalités, qui au moment où elle est faite peut être sincère et qui néanmoins est fausse. Ou bien, exemple un petit peu différent, troisième type d'exemple, face à un nouveau tableau d'un peintre que j'aime, par exemple, ou un nouveau film d'un cinéaste, de mon cinéaste préféré, je déclare ce tableau me plaît ou ce film me plaît, alors qu'en réalité il ne me plaît pas du tout, pas vraiment. Mais sur le moment, je suis de mauvaise foi, je cherche à me tromper moi-même. Il est possible de s'attribuer, de s'auto-attribuer jusqu'à un certain point des états qu'on n'a pas. Donc, une bonne théorie des Overwolves est une théorie qui ne leur impute pas l'infaillibilité, n'entraînent pas leur infaillibilité, qui expliquent leur invulnérabilité, telle qu'on l'a définie, l'exclusion de l'erreur brute, mais qui n'admet pas nécessairement leur infaillibilité. Alors l'interprétation que propose Dorit Baron là-dessus est de dire les Zawovols bénéficient d'une immunité à l'erreur. Alors pour expliquer ça, il faut simplement reconnaître qu'il y a deux manières d'effectuer un énoncé d'attribution ordinaire, je veux dire par là un énoncé d'attribution non psychologique. Il se peut que le sujet, partant de lui-même, s'attribue un certain prédicat, ou il se peut que le sujet, partant d'un prédicat déterminé, se l'attribue à lui-même. Par exemple, je peux dire « j'ai de la fièvre » en lisant 40 degrés sur le thermomètre que je viens de m'appliquer. La question à ce moment-là est « j'ai une température, mais laquelle ?» Ou bien à l'inverse, je peux dire « j'ai de la fièvre » en regardant la feuille de température qui est accrochée à mon lit, parce que je pense qu'il s'agit de mon lit. Quelqu'un a cette température, et c'est moi, puisqu'il s'agit de mon lit. Il y a donc deux possibilités d'erreur dans les auto-attributions ordinaires. L'erreur peut porter sur le prédicat. Il se peut que je lise mal le thermomètre. J'ai lu 40 alors que c'est 37. Là, je me méprends sur une de mes propriétés. J'ai quelque chose, à savoir une température, mais pas celle que je crois. Et l'erreur peut porter sur le sujet. Si l'infirmière a interverti les feuilles de température de mon lit et de celle du voisin, quelqu'un a de la fièvre, quelqu'un a 40, mais ce n'est pas moi. Bon, et je crois à tort que c'est moi, puisque c'est sur mon lit. Alors, le néo-expressivisme comprend l'invulnérabilité des Zawovols comme une double immunité à l'erreur. Immunité à l'erreur sur le sujet. Si je suis triste, il n'est pas possible que quelqu'un étant triste, je l'ai pris pour moi. Donc c'est l'absence de méprise ou de mistake sur le sujet porteur de l'état. Alors cette immunité, sur laquelle beaucoup d'encre a déjà coulé, porte le nom classique maintenant, de immunity to error through misidentification, immunité à l'erreur par mauvaise identification. C'est le terme consacré aujourd'hui. Ceci dit, il faut faire remarquer que c'est une terminologie assez trompeuse, parce qu'elle tend à faire oublier qu'il s'agit bel et bien d'une immunité à l'erreur dans une attribution, et non pas à une erreur dans la référence. C'est très important de bien voir ce point-là. Si, voyant accrocher au pied de son lit d'hôpital une certaine feuille de température qui n'est pas... Enfin, si je vois accrocher au pied du lit d'hôpital une feuille de température qui n'est pas la mienne, et si je pense à tort, j'ai de la fièvre, c'est bien de moi que je parle. C'est bien à moi-même que dans cet énoncé je fais référence, et c'est bien à moi que j'attribue à tort une fièvre qui est celle de quelqu'un d'autre. Donc ce qui ne va pas dans cet énoncé, ce n'est pas la référence, c'est l'attribution à je, au locuteur, du prédicat en suspens. Et peut-être vaudrait-il mieux l'appeler immunité à l'erreur sur le sujet, tout simplement. Alors cette sorte d'immunité sur laquelle Wittgenstein a sans doute été le premier à attirer l'attention dans une page du Blue Book archi-célèbre que je vous lirai tout à l'heure, a été l'objet de très nombreuses élaborations, depuis des analyses classiques de Shoemaker et de Garrett Evans. Je vais y revenir, mais ce que je voudrais souligner ici, c'est qu'une des idées originales, et je trouve particulièrement intéressante, de Dorit Baron, c'est de proposer de construire de manière strictement symétrique une erreur, une immunité à l'erreur sur le prédicat. Donc, l'immunité à l'erreur sur le prédicat doit être comprise comme une immunité à l'erreur à la fois sur la nature des états mentaux attribués et sur leur contenu quand ces états en ont un. Si je dis « je suis triste », il n'est pas possible que j'ai pris à tort mon état qui était en réalité de la joie ou de la colère pour de la tristesse. Absence de méprise, de mistake sur l'état mental, sur sa nature. Mais en outre, si je dis par exemple « je crois qu'il pleut », il n'est pas possible que j'ai pris à tort ce qui était en réalité ma croyance qu'il fait beau ou ma croyance que le chat est sur le tapis pour une croyance qu'il pleut. Absence de méprise sur le contenu de mon état. Alors, ce second type d'immunité, Dorit Baron l'appelle immunité à l'erreur d'attribution. Alors, c'est une terminologie qui peut encore être trompeuse, me semble-t-il, moins que la précédente, puisque l'immunité ne concerne ici qu'un des deux sens de l'attribution. Peut-être vaudrait-il mieux l'appeler immunité à la méprise sur l'attribut ou à la méprise sur l'état et sur son contenu. Alors, commençons par l'immunité à l'erreur par mauvaise identification. Ici, on parle d'un texte célèbre donc du Blue Book. Wittgenstein distingue les usages subjectifs de je et les usages objectifs. Usage objectif, il est possible, par exemple, dans un accident, que je sente une douleur dans mon bras et que je vois un bras cassé à côté de moi et je pense que c'est le mien, alors qu'en réalité, c'est celui de mon voisin. Et je dis, j'ai le bras cassé, hein, et je fais une erreur. Il y a bien un bras cassé, mais ce n'est pas le mien. Et en regardant dans un miroir, il se pourrait que je confonde une bosse sur son front avec une bosse sur le mien. Je ne vois que la bosse dans le miroir et je crois, par l'endroit où je suis placé, que c'est moi qui suis reflété dans le miroir, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Donc on a affaire là à des usages objectifs de je dans lesquels il peut y avoir ce que Dorit Baron appelle une erreur brute. Au contraire, ajoute Wittgenstein, il n'est pas question de reconnaître qui que ce soit lorsque je dis j'ai mal aux dents. Demander « es-tu certain que c'est toi qui as mal ?» serait absurde. Or, si dans ce cas aucune erreur n'est possible, c'est parce que le coup que nous pourrions être enclins à considérer comme une erreur, comme un mauvais coup, ne fait pas partie des coups de ce jeu. Et Wittgenstein a bien une définition négative ici de l'invulnérabilité. Négative au sens où il y a simplement des coups qui ne sont pas dans le jeu, il y a un espace, il n'y a pas d'espace pour certaines questions, ou pour certaines tentations d'erreur, ou pour certains risques d'erreur. Il est tout aussi impossible qu'en énonçant « j'ai mal aux dents, je confonde une autre personne avec moi-même » qu'il est impossible de gémir de douleur par erreur, ayant confondu quelqu'un d'autre avec soi. Et Wittgenstein ajoute « dire j'ai mal n'est pas plus un énoncé sur une personne déterminée que gémir ne l'est ». Alors évidemment, en s'appuyant sur cette phrase, un certain nombre de continuateurs et d'interprètes de Wittgenstein ont développé une idée de selon laquelle « je ne référerai pas ». C'est l'idée qu'on trouve par exemple chez, enfin, dans ce type d'emploi, c'est l'idée qu'on trouve chez Anscombe, mais idée que conteste, comme je viens de l'expliquer, Dorit Baron. Alors, l'interprétation qui a marqué le plus de ce texte, c'est l'interprétation qu'on trouve chez Shoemaker et chez Gareth Evans, deux citations de Shoemaker. L'énoncé « j'ai mal » n'est pas sujet à l'erreur par mauvaise identification. Il ne peut pas arriver que je me trompe en disant j'ai mal parce que, bien que je sente que quelqu'un a mal, je me trompe en pensant que cette personne est moi. Et il ajoute un peu plus loin, mon usage du je comme sujet de mon énoncé n'est pas dû au fait que j'ai identifié moi-même comme quelqu'un dont je sais, crois ou souhaite dire que le prédicat de mon énoncé s'applique à lui. Alors, il faut souligner que l'immunité à l'erreur d'identification n'est pas, à proprement parler, distinctive des Auerwals. Elle caractérise aussi les jugements de perception. Si je dis « je vois un rouge-gorge dans le jardin », je peux me tromper, ce n'est pas un rouge-gorge, mais je ne peux pas me tromper sur le fait que c'est moi qui vois. Alors, le commentaire de Dorit Baron, elle insiste sur le fait que, selon elle, ce que montre cette immunité, ce type d'immunité, donc à l'erreur d'identification, ce type d'immunité montre qu'il est possible d'y avouer, qu'il existe une référence sans identification cognitive. Elle explique les choses ainsi. Shoemaker et Evans s'accordent avec Anscombe pour dire que les usages de je comme sujet ne reposent pas sur une certaine sorte d'auto-identification. Mais à la différence d'Anscombe, il ne considère pas qu'il y a là une raison de supposer que dans de telles attributions, le terme sujet « je » n'est pas utilisé pour référer à ou pour parler d'un objet particulier. La clé, pour éviter cette interprétation erronée, donc l'interprétation d'Anscombe, qui est erronée selon elle, est de, c'est ça le point important, nier que la présupposition selon laquelle une référence authentique requerrait une identification au sens où elle exigerait le recours à une procédure d'identification ou à des moyens descriptifs pour reconnaître la cible en question. Et elle poursuit un peu plus loin. Si j'en viens à penser j'ai mal aux dents, je me tiens en face d'un arbre ou je vois un canari, je ne peux pas raisonnablement douter que c'est moi qui ai les propriétés en question, sans douter de que quelqu'un les a. Donc, en fait, cette analyse de l'immunité à l'erreur d'identification permet à Dorit Baron de dessiner une voie, cette voie médiane qu'elle cherche, refus de la voie épistémique, il n'y a pas d'identification cognitive, mais refus de l'idée qu'il n'y a pas de référence du tout, Et donc, la voie qu'elle essaie de développer, d'avancer, c'est celle d'une référence sans identification, qui se ferait sans identification cognitive, entendons-nous bien, sans identification épistémique. Et si sur ce même modèle bien connu, bien étudié de l'immunité à l'erreur sur le sujet, hein, qu'elle essaie de construire l'immunité à l'erreur par mauvaise attribution, l'immunité à l'erreur sur le prédicat. L'idée est la suivante. Quand, je cite encore, quand j'émets un avowal qui m'attribue un état déterminé, avec un contenu déterminé, il n'y a pas plus de sens pour moi à mettre en question le caractère ou le contenu de l'état que j'avoue qu'à mettre en question l'identité de l'individu auquel j'attribue cet état. Le parallélisme est clair. Donc quand je dis j'ai peur du chien, il n'y a pas de sens à me demander si c'est de la peur ou de la joie ou du mal de dents. Pas de sens à me demander si c'est une peur de chien ou une peur de chat. Alors, bien entendu, il est tout à fait possible que l'animal que j'ai en face de moi soit un chat et non un chien. Mais ma peur est une peur de chien. Et la preuve, c'est que si je m'aperçois qu'il s'agit en réalité d'un chat et que je n'ai pas peur des chats, ma peur disparaîtra. Donc on a affaire de nouveau à une attribution sans... cette fois-ci, non plus à une référence sans recognition, mais disons à une attribution sans recognition, et aussi d'ailleurs à une référence sans recognition. Autrement dit, je ne suis pas dans la position épistémique de juger que je suis dans un certain état et de produire, à partir de traits reconnaissables de cet état, des jugements selon lesquels cet état est M et le contenu C déterminé. Donc, Dorit Baron oppose clairement l'idée d'immunité à l'erreur à celle de garantie épistémique. Elle en conclut que la sécurité distinctive des agro-wolves n'est pas une affaire de succès recognitionnel. Si c'était défini en termes de succès, si c'était l'idée « ça marche toujours », ça inviterait à une explication épistémique. Elle est plutôt une affaire d'invulnérabilité à certaines sortes d'erreurs qui est comprise en termes d'absence d'une certaine sorte de fondement. Alors, comme on l'a déjà souligné, comme je l'ai déjà souligné, mais je vous donne la citation complète cette fois-ci, je trouve que c'est un des textes intéressant, des idées vraiment intéressantes de ce bouquin. Posséder l'immunité à l'erreur, vous l'avez dans la fiche que je vous ai fait distribuer, posséder l'immunité à l'erreur ne s'égale pas la présence d'une base épistémique hautement assurée, ni l'infaillibilité absolue, ni la présence d'une garantie spéciale de vérité. Une personne qui est immune à l'erreur dans un certain domaine ne s'égare pas dans ses déclarations. Mais ce n'est pas parce qu'elle connaîtrait parfaitement son chemin ou aurait une voie spéciale vers la vérité, c'est parce qu'il y a certains chemins qu'elle n'emprunte pas. Là, évidemment, maintenant, il faut expliquer comment c'est possible, référence et cette attribution sans recognition épistémique, ou comment, dans les termes de l'auteur, il peut y avoir un ciblage sémantique en l'absence d'un ciblage épistémique. Et c'est ici qu'intervient, bien sûr, le concept d'expression et le modèle néo-expressiviste. Alors, pour s'engager dans l'analyse de l'expression, Dorit Baron s'appuie sur une distinction qu'on trouve chez Sellars, dans un article qui s'appelle « Language as Thought and Communication », un article de 69, où Sellars distingue trois sens d'expression. Et je vous ai donné le texte complet parce que c'est un texte sur lequel elle va sans arrêt s'appuyer. Premier sens d'expression, le sens action. Une personne exprime un état qui est le sien en faisant intentionnellement quelque chose. Par exemple, si je vous donne intentionnellement l'accolade, ou si je dis c'est sympa de vous voir, je fais intentionnellement quelque chose pour donner une expression à ma joie de vous voir. Et ce que je fais peut être aussi bien adopter un certain comportement, l'accolade, ou dire une phrase du genre « c'est sympa de vous voir, c'est bien de vous rencontrer », etc. Deuxième sens, le sens causal. Une énonciation ou un comportement peut exprimer un état sous-jacent en étant la culmination d'un processus causal commençant avec cet état. Par exemple, si je grimace ou si je me tords les mains non intentionnellement, cela peut exprimer au sens causal ma douleur ou ma nervosité. Ou si je pousse un « ah » de surprise joyeuse, en rencontrant quelqu'un par hasard. Et troisièmement, il y a le sens sémantique. Par exemple, une phrase exprime une proposition abstraite, une pensée ou un jugement, en étant une représentation conventionnelle. Par exemple, la phrase « il pleut dehors » exprime au sens sémantique la proposition qu'il pleut dans l'environnement du locuteur à l'instant de l'énonciation. Alors, il est utile de remarquer qu'une même expression comportementale peut être tantôt causale, tantôt une action. Une grimace peut être causée, arrachée à moi par la douleur ou intentionnelle. Que par ailleurs, une même expression linguistique, par exemple « Oh, il va tomber » ou « C'est horrible » peut simultanément être un comportement causalement provoqué par un état mental, un cri arraché par la peur ou par le sentiment d'horreur, et être une expression sémantique d'un jugement sur un état de choses, « Cet homme va tomber, cette situation est horrible », et qu'une même expression linguistique du type que j'évoquais tout à l'heure, « Quelle chance de vous rencontrer ici » peut être simultanément un acte expressif intentionnel, un acte manifestant une joie, et l'expression sémantique d'un jugement sur un état de choses. Cette rencontre est une étante, est une rencontre heureuse ou une rencontre chanceuse. Alors, ce dernier point est important parce qu'on voit ici un exemple où la même expression linguistique peut être un acte expressif au sens 1 de Sellars et un acte expressif au sens 3, au sens sémantique. Qu'en est-il maintenant des awawols ? Alors, David Baron propose de s'intéresser d'abord à une certaine classe ou une certaine sous-classe d'awawols qu'elle appelle les awawols propres. Les awawols qu'elle appelle propres sont ceux qui vont constituer en quelque sorte le noyau de la catégorie générale d'awawols. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne manière d'aborder la question des awawols que de définir les awawols propres comme le noyau. Mais je ne pourrais expliquer ça, pourquoi je pense ça, qu'à la fin de mon exposé. Ce sont ceux dans lesquels je m'attribue un état sans avoir aucune intention d'informer qui que ce soit ou de communiquer avec qui que ce soit. Autrement dit, ce sont des situations où je laisse libre cours, comme elle dit, à mon état d'esprit. Par exemple, je rentre chez moi après une journée de travail, je m'affale dans un fauteuil et je pousse un soupir en disant, il n'y a personne autour de moi, je me sens fourbu. Bon. Alors le point important, s'agissant de ces awawols propres, c'est qu'ils peuvent être considérés comme des sortes de comportements expressifs, autrement dit, au sens où ils jouent le même rôle que des comportements non-verbaux. Ce sont des comportements verbaux, évidemment, hein, ce sont des expressions linguistiques, mais ils jouent le même rôle que des comportements expressifs non-verbaux. Le point crucial, écrit-elle, c'est que bien que la awawol propre nous dise que le locuteur est dans un certain état, exactement comme un compte-rendu de cet état, dans ces circonstances, l'awawol joue le même rôle expressif qu'une expression naturelle de cet état. Autrement dit, il y a une équivalence fonctionnelle, si vous voulez, ou une équivalence de rôle entre, par exemple, le simple fait de m'affaler dans mon fauteuil en disant « ouf », rien de plus, ou de m'affaler dans mon fauteuil en disant « quelle fatigue », ou de m'affaler dans le fauteuil en disant « je suis fourbu ». Mais il est très important de noter que la comparaison entre où l'équivalence entre comportement naturel et awawol propre se fait ici, j'y insiste, sur le plan de l'usage, à savoir celui où on considère le contexte et l'intention du locuteur. Autrement dit, ce qui permet de dire que ce sont des actes expressifs au sens 1 de Sellars, c'est la manière dont ils sont utilisés, la fonction, le rôle qu'ils jouent dans ce que Wittgenstein appellerait nos jeux de langage. Ah, ce point est très important, j'y reviendrai pour la suite de la discussion. Alors, quel est le principe, à partir de là, concernant au moins ces awawols propres, de l'analyse néo-expressiviste ? Eh bien, c'est simplement que les awawols sont expressifs des conditions qu'ils attribuent. Autrement dit, si face à un danger, je crie, j'ai peur, cet awawol est causalement expressif de ma peur, au sens 2 de Sellars, et simultanément, si soudain je crie, j'ai peur, mais de manière complètement involontaire, enfin, je n'ai même pas réfléchi une seconde à ce que j'allais dire, ça m'échappe, comme on dit, hein, complètement. Mais il exprime sémantiquement la proposition auto-attributive que j'ai peur, que je suis dans un état de peur. Et si, alors que je tremble de tous mes membres devant un danger, quelqu'un me demande que t'arrive-t-il et que je lui réponde oui, j'ai peur, cet awawol exprime intentionnellement ma peur et simultanément il exprime sémantiquement la proposition auto-attributive que j'ai peur. Donc, Les Awowol comme produit expriment au sens sémantique, au sens 3 de Sellars, la proposition attribuant au locuteur précisément l'état mental dont ils sont l'expression 2 causale, enfin l'expression au sens 2 de Sellars, l'expression causale, ou dont ils sont, en tant qu'acte intentionnel, l'expression au sens 1 de Sellars. Donc, en utilisant à la fois cette distinction sellarsienne entre expression 1, expression 2, expression 3, ou plus exactement, entre d'un côté expression 1 et 2, et de l'autre côté expression 3. Et la distinction entre acte et produit, qu'elle a introduite, et que j'ai évoquée tout à l'heure, on peut dire que, en tant qu'événement du monde, un awowol est un acte qui exprime au sens 1 ou au sens 2 de Sellars l'état d'esprit du locuteur de la même manière que le ferait un comportement non-verbal, mais que simultanément, en tant que produit de cet acte, il est une proposition dotée d'une structure sémantique, de conditions de vérité, qui exprime au sens 3 de Sellars que l'auto-attribution, qui exprime l'auto-attribution par le locuteur de l'état d'esprit en question. Les awowol sont donc à la fois semblables au comportement naturel expressif, ils ont le même usage expressif, et différents d'eux, ils expriment sémantiquement une authentique proposition, qui se trouve simplement portée sur l'état qui précisément a engendré l'expression. Alors c'est cette coïncidence dans l'awowol, en tant qu'il est à la fois acte et produit de deux sortes d'expressions, expression 1 et 2 ou d'une part, enfin 1 ou 2 d'une part, et expression 3, expressions sémantiques d'autre part, qui permettent de comprendre comment les awowol peuvent référer et être d'authentiques auto-attributions, ça c'est ce qui est assuré par le sens 3, par le produit, sans recourir à un jugement recognitionnel ou à des identifications, ça c'est ce qui est assuré par le sens 1 ou 2 et par l'aspect, la dimension acte de l'awowol. D'un côté donc, je reprends pour que ce soit bien clair, hein, leur similarité d'usage avec les comportements expressifs permet de comprendre que les awowol peuvent être produits sans aucune récognition par le sujet, ni de lui-même, ni de son état. D'un autre côté, l'awowol est une proposition qui réfère à la fois à un individu et à un état mental, et par laquelle, en tant que locuteur, je m'attribue l'état en question. Donc la source de la double immunité à l'erreur de ces awowol propres et qu'ils font coïncider l'expression au sens 1, ou à la rigueur au sens 2, de la douleur, par exemple, et son expression au sens 3. Tel est, si vous voulez, le principe de la solution néo-expressiviste. Alors, ce qu'il va falloir voir maintenant, c'est comment elle peut s'appliquer à d'autres awowols que les awowols propres, à des awowols qui ne sont pas nécessairement utilisés expressivement, ou qui ne peuvent pas être considérés comme des équivalents ou des substituts possibles de comportements naturels expressifs. C'est donc ma quatrième et dernière partie, l'extension du modèle et les problèmes qu'elle entraîne. Alors, avant de m'engager dans la question, comment, à quelles conditions peut-on étendre ce modèle à l'ensemble des awowol et quels problèmes ça pose et quel remaniement de la doctrine cela suppose. Précision sur une... Enfin, il faut que je développe un peu une thèse ou une analyse assez intéressante que propose Dorit Baron et dont j'aurai besoin pour la suite. Il s'agit de ce qu'elle appelle la transparence à la condition du sujet des comportements expressifs naturels. On quitte donc la question des awowols stricts, on s'occupe pour un moment des comportements expressifs naturels type grimace de douleur, saut, bond de joie, tout ce que vous voudrez. Cri de colère. Bon. Premier trait, nous dit Dorit Baron, les expressions naturelles montrent ce qu'elles expriment. Ce qui est caractéristique des expressions naturelles, écrit-elle, c'est qu'elles nous montrent les conditions qu'elles expriment, ou les états qu'elles expriment, plutôt qu'elles ne nous disent que les états manifestant ce comportement expressif sont dans les conditions, que les êtres manifestant ces comportements expressifs sont dans les conditions en question. Deuxièmement, puisqu'elles les montrent, elles les rendent visibles, ces conditions. Quand nous sommes face à un animal en colère qui montre ses dents, à un enfant qui sourit de plaisir, à un homme qui tord sa bouche de dégoût, nous considérons réellement que nous voyons la colère, nous voyons le plaisir, nous voyons le dégoût, nous ne percevons pas seulement la présence de l'État, mais aussi sa qualité, son degré, son objet. On trouve toutes sortes de réflexions chez Wittgenstein là-dessus, bien sûr, sur le fait qu'on voit la tristesse, qu'on voit la colère, etc. Troisièmement, ces expressions naturelles suffisent à montrer ces conditions ou ces états qu'elles expriment. Alors on peut comprendre ce point à partir de la différence entre l'expression des états mentaux occasionnels et celle des dispositions. Je reprends ici brièvement un exemple de l'auteur. Prenons l'exemple du courage. Si on est en Alabama en 1955 et si une femme noire s'assoit à l'avant d'un autobus, c'est la manifestation d'un grand courage. Mais on ne voit le courage de cette femme que si on connaît le contexte. Contexte des lois de ségrégation raciale, etc. L'acte de s'asseoir à l'avant d'un autobus pris isolément n'est pas en soi une manifestation de courage. Et il y a toutes sortes de situations où le courage s'exprimera autrement. En revanche, il suffit de voir l'animal montrer ses dents en grondant, l'enfant sourire ou l'homme se tordre la bouche pour voir la colère, le plaisir ou le dégoût. Seuls, donc, les états mentaux occasionnels ont des expressions comportementales typiques qui permettent de les voir. Alors, de cette analyse, et de cette idée à laquelle elle est arrivée, c'est-à-dire que les expressions naturelles suffisent à montrer les états qu'elles expriment, l'auteur en conclut que le comportement expressif est, dit-elle, transparent à la condition mentale du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le comportement expressif naturel montre l'état présent du sujet, elle montre dans quel état il est. Et deuxièmement, le comportement expressif naturel montre que le sujet est dans l'état en question. Alors bien entendu, on peut se tromper dans l'interprétation. Je peux mal lire le comportement expressif de celui qui est en face de moi. Tout ceci n'est bien sûr pas infaillible et n'exclut pas l'erreur d'interprétation. Alors revenons maintenant à la question des awawols. Notre problème, c'est que nous avons un modèle pour rendre compte des awawols qui sont, d'une part, on l'a dit, des awawols propres, autrement dit, qui sont d'un usage strictement expressif, d'une part, et d'autre part, des awawols qui sont des équivalents ou ont pour équivalent des comportements expressifs naturels. Typiquement, j'ai mal ou j'ai peur du chien, etc. Mais il se trouve que de nombreux états mentaux n'ont pas d'expression naturelle, et c'est notamment vrai, évidemment, des croyances, des pensées, des intentions, ou d'un certain nombre de sensations. La sensation, par exemple, du goût de la vanille n'a pas d'expression naturelle. Alors, qu'est-ce qui peut jouer dans ce cas-là le rôle des expressions naturelles ? La solution proposée par Dorit Baron, je crois que c'est un problème crucial pour toute théorie des awawols, c'est de dire qu'ils viennent en remplacement d'expressions linguistiques de premier ordre. Son exemple est le suivant. Un enfant dit « il y a un chat », mais en fait, il se trompe, c'est un lapin. Alors ses parents lui disent « tu crois que c'est un chat, ça y ressemble, mais en réalité, c'est un lapin ». Donc il lui enseigne l'usage de je crois que, tu crois que, il croit que, etc. Et la fois suivante, l'enfant apprendra à proposer une expression qualifiée de ses pensées en disant « je crois que c'est un chat ». Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous pouvons faire appel à des expressions linguistiques de premier ordre, c'est-à-dire des expressions linguistiques qui ne sont évidemment pas du tout des auto-attributions, des expressions linguistiques qui décrivent des états du monde. Il y a un chat. Comme candidat pour leur remplacement par des auto-attributions. Et elle en conclut que les awawols de désir, d'espoir, de croyance occurrente, par exemple, peuvent être considérés comme remplaçant des expressions linguistiques non auto-attributives de ces états. Et elle étend ses considérations au cas des sensations. On peut passer de « hum, c'est de la vanille » à « aha, je sens de la vanille », qui est une auto-attribution. Et elle ajoute, ce qui me paraît très important, il n'est pas crucial pour la théorie néo-expressiviste qu'il y ait dans chaque cas des expressions naturelles qui servent de candidat pour leur remplacement par des awawols. Tout ce qui est requis est qu'il y ait des expressions de base non auto-attributives, qu'elles soient naturelles ou non, et que les awawols puissent remplacer. Alors à partir de ces analyses, on peut formuler la thèse suivante, que l'auteur ne formule pas expressément comme telle, mais que je me permettrai de formuler tout de même, thèse que j'appellerai du caractère, qui n'est pas très original, hein, du caractère dérivé des Auerwals. Elle me semble typiquement wittgensteinienne, ou pouvant être tirée de ce que dit Wittgenstein. Pour qu'il puisse y avoir un Auerwal, il faut et il suffit qu'il existe déjà une expression soit comportementale, soit verbale, mais non attributive de cet état. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les Auerwals sont toujours greffés sur des expressions non auto-attributives de premier ordre, que celles-ci soient comportementales ou linguistiques, ou pour le dire dans un langage plus wittgensteinien, les jeux de langage employant des Auerwals sont toujours des jeux de langage second ou dérivés. Si spontané, direct et immédiat soit-il, on ne commence jamais l'apprentissage du langage par des Auerwals. Mais nous n'avons pas fini avec cette question, parce que cette extension des Auerwals à des états qui n'ont en guise d'expression de premier degré que des expressions linguistiques et non comportementales pose immédiatement une série de questions cruciales qui vont entraîner une sorte de développement nouveau dans la théorie dont je ne suis pas sûr d'ailleurs que l'auteur mesure toutes les implications. Elle est amenée d'abord à la question suivante. D'où les Auerwals exprimant ces états qui n'ont pas d'expression comportementale typique tirent-ils leur expressivité ? La réponse qu'on aurait envie de donner, c'est de dire, eh bien, de l'expressivité des expressions linguistiques de premier ordre sur lesquelles elles viennent se greffer. Mais celle-ci, justement, est une expressivité purement linguistique, une expressivité, disons, sémantique au sens 3 de Sellars. Et elle ne possède pas, à première vue, la transparence à la condition du sujet qui est caractéristique des expressions comportementales naturelles. Par exemple, on peut dire que l'expression comportementale grimace de douleur, enfin une grimace de douleur, hein, montre la douleur, la fait voir. Mais l'expression linguistique de premier ordre, il y a un chat, n'a pas l'air de montrer la croyance qu'il y a un chat. Et l'expression linguistique de premier ordre, ça sent la vanille, ne fait ni voir ni sentir la sensation de vanille. Alors ça entraîne Dorit Baron vers une nouvelle question. On peut reformuler à peu près ainsi. Comment, de manière générale, les énoncés expressifs que sont les Auerwals peuvent-ils montrer, c'est-à-dire dans quelle mesure peut-on leur attribuer la transparence à la condition du sujet qui est la marque de l'expressivité comportementale naturelle ? Question qui se dédouble aussitôt en comment conservent-ils, s'ils la conservent, cette transparence quand ils sont greffés sur des comportements transparents ? Et comment l'acquièrent-ils, s'ils l'acquièrent, quand ils sont greffés sur des expressions linguistiques qui, à première vue, ne semblent pas l'avoir ? Alors, commençons par les Auerwals greffés sur des comportements naturels, ceux que nous avions déjà étudiés. La grimace et le cri de douleur montrent la douleur, mais à première vue, l'Auerwal « j'ai mal » en tant que tel, en tant que simple expression linguistique, n'a pas l'air de montrer la douleur. Il l'a dit seulement. Alors, on peut vouloir s'en tirer en disant que si elle est arrachée par la douleur, si elle est l'équivalent ou le substitut d'une grimace ou d'un cri, l'exclamation « j'ai mal » est chargée de douleur, qu'elle montre en ce sens ma douleur, qu'elle la rend perceptible, qu'elle la fait entendre, par exemple, par le ton, par la manière dont cette déclaration est prononcée. On peut dire « l'Auerwal en tant que produit ne montre pas, mais c'est en tant qu'acte qu'il montre ». Mais il apparaît très vite que cette tentative de réponse conduit à une impasse. Premièrement, parce qu'elle n'est pas du tout satisfaisante, déjà pour les Auerwals dotés d'équivalents comportementaux, parce qu'elle conduit à découper l'Auerwal en deux parties. La proposition proprement dite, qui seule serait langagière, et puis sa force expressive, qui serait comme une sorte d'apport non linguistique de ce que l'Auerwal hériterait de son antécédent comportemental. Et il me semble qu'une telle partition serait ruineuse pour la théorie expressiviste elle-même, qui implique que l'acte et le produit ne soient pas deux parties côte à côte, mais soit, comme plutôt, j'avais pris cette image tout à l'heure, comme le recto et le verso de la feuille. Et puis, deuxièmement, et surtout, cette réponse n'a manifestement aucun sens dans le cas des Auerwals qui sont greffés sur des expressions linguistiques de premier degré. Si je dis « ah, ah, ça sent la vanille », le ton de ma voix peut peut-être montrer mon plaisir de sentir la vanille, mais sûrement pas ma sensation de vanille elle-même. Et si je dis « oh, je crois qu'il pleut », le ton de ma voix peut montrer ma déception, parce que le pique-nique est tombé à l'eau, mais sûrement pas ma croyance elle-même. Alors, prenant conscience de cette impasse, Dorit Baron change soudain de route en ne le signalant qu'à peine et sans prendre, à mon avis, tout à fait la mesure de ce qu'implique cette bifurcation. Mais je vous cite intégralement le passage. Elle écrit ceci. « Nous pouvons nous appuyer sur l'intuition assez robuste que Auerwals, mis à part, nous exprimons couramment nos pensées, nos sensations, nos émotions, nos attitudes propositionnelles en utilisant le langage. Vous dites en regardant le ciel, il va pleuvoir, et vous prédisez l'arrivée imminente de la pluie. La phrase que vous avez prononcée exprime, au sens 3, au sens sémantique de Sellars, la proposition qu'il va pleuvoir, mais dans l'acte de la prononcer, vous avez exprimé au sens 1 de Sellars, au sens de l'action, votre pensée présente ou votre jugement présent qu'il va pleuvoir. Autrement dit, vous mettez une pensée présente ou un sentiment présent en mots et non dans une expression faciale, un geste, votre ton de voix ou un comportement corporel. Et voilà l'expression cruciale. Vous parlez depuis votre condition présente, votre état présent, au lieu de lui donner une expression non verbale. Alors ici, il faut s'arrêter un instant. Que fait l'auteur ? Elle s'appuie sur ce qu'il faut bien appeler, ou ce qu'on peut bien appeler depuis Buller ou après Buller, la fonction expressive du langage. Sur le fait que tout acte de langage, même quand il ne contient pas le pronom « je », même quand il est principalement un acte de communication, comme un ordre ou une prière, ou même quand il est principalement une représentation ou une description du monde extérieur, exprime, c'est-à-dire extériorise, manifeste, rend perceptible l'état interne du locuteur. Ainsi, ma déclaration « il va pleuvoir », en même temps qu'elle décrit un certain état de choses futures, l'état de choses qu'il va pleuvoir, ou l'état de choses qu'il pleuvra, exprime, non pas évidemment cet état, mais elle exprime ma croyance présente, bien qu'elle ne contienne pas le pronom « je » ni le verbe « croire ». Autrement dit, l'énoncé ou le fait d'énoncer ou l'énonciation « il va pleuvoir » exprime implicitement ma croyance qu'il va pleuvoir. Alors que se passe-t-il quand je substitue à la déclaration « il va pleuvoir » la déclaration auto-attributive « je crois qu'il va pleuvoir » ben, en tant qu'acte, l'énoncé « je crois qu'il va pleuvoir » explicite, c'est-à-dire exprime au sens 1 de Sellars, la croyance qui était implicite dans l'énoncé « il va pleuvoir », elle la manifeste, elle l'extériorise. Ainsi, en tant qu'acte, là où vol « je crois qu'il va pleuvoir » est un équivalent, pourrait-on dire, partiel de la déclaration « il va pleuvoir ». Un équivalent partiel parce que ce n'est pas un équivalent de cette déclaration en tant que celle-ci affirmait explicitement une prédiction sur l'état du monde, puisque précisément, il n'est plus une prédiction. Enfin, plutôt, « je crois qu'il va pleuvoir » ne porte plus sur l'état du monde. Mais, en tant que cette déclaration, « il va pleuvoir », exprimait implicitement ma croyance qu'il pleuvra. Et deuxièmement, en tant que produit, l'énoncé « je crois qu'il va pleuvoir » est une expression au sens 3 de Sellars, au sens sémantique, de cette croyance même et de son contenu. Alors cette analyse met en lumière une différence qui est à mes yeux d'une importance considérable et à laquelle, bien qu'elle la voie d'une certaine manière ou l'entrevoie, je trouve que l'auteur n'attache pas l'importance qu'il mérite. Et je la formulerai de la façon suivante. L'équivalence entre une grimace de douleur et la wovol « j'ai mal », telle du moins que nous l'avions décrite tout à l'heure, était une équivalence, j'y avais insisté, d'usage. Tous les deux jouaient le même rôle. Mais l'équivalence partielle entre « il va pleuvoir » et « je crois qu'il va pleuvoir » consiste en ce que ce sont deux manières d'exprimer verbalement mon état d'esprit, deux manières de « speak my mind », pour reprendre le titre du livre, l'une implicitement, l'autre explicitement. Mais ici, il ne s'agit plus d'usage, d'intention ou de contexte. Quelle que soit l'intention avec laquelle un sujet dit sincèrement « il va pleuvoir » et quel que soit le contexte dans lequel il le dit, s'il parle sincèrement, il exprime implicitement ce que l'énoncé « je crois qu'il va pleuvoir » exprimera explicitement. Et du coup, le seul fait que c'est moi qui dis « il va pleuvoir » m'autorise à remplacer cet énoncé de premier degré par l'auto-attribution « je crois qu'il va pleuvoir ». Autrement dit, pour pouvoir dire « je crois qu'il va pleuvoir », il faut et il suffit que je sois ou que je puisse être le locuteur de l'énoncé « il va pleuvoir ». Et le lien ici est un lien strictement logique, il n'est plus question d'usage. Ce qui me conduit à l'idée que sont à l'œuvre dans les Our Walls, ou si ce sont des choses que je tire de ce qu'écrit l'auteur, mais qui sont loin de ce qu'elle écrit, et je ne suis pas sûr qu'elle l'assumerait, je ne suis pas sûr du tout qu'elle l'assumerait, bien entendu. Et j'ai même quelques raisons de penser qu'elle ne l'assumerait pas, mais bon. Ce qui me conduit à l'idée que ce sont à l'œuvre ici, dans les Our Walls, deux sortes d'expressivité que l'on confond trop souvent et que j'appellerais respectivement, il faut bien leur trouver un nom, je ne suis pas très content des noms que je leur ai trouvés, mais je ne vais pas trouver mieux pour le moment, expressivité d'usage et expressivité de position. Il me semble que Dorit Baron ne formule pas donc cette distinction, mais qu'elle aide à la formuler de manière plus précise. L'expressivité d'usage, hein, c'est celle qui correspond à la formule « donner libre cours à son état mental ». L'expressivité qui est caractéristique des comportements expressifs naturels. Et c'est l'expressivité de ce que Dorit Baron appelle les Our Walls propres. L'expressivité de position, elle correspond à la formule « parler depuis sa condition » ou « parler depuis son état d'esprit ». Et elle a sa source, elle, dans l'expressivité propre du langage, c'est-à-dire dans le fait que, comme je le disais à l'instant, tout énoncé, même quand il est principalement communicatif ou représentationnel, a aussi une fonction expressive, c'est-à-dire est expressif de l'état interne de son locuteur. Et il en résulte qu'à partir d'à peu près n'importe quel énoncé émis ou susceptible d'être émis par lui, un locuteur peut en produire un second par lequel il s'auto-attribue l'état d'esprit implicitement exprimé dans son premier énoncé. Alors j'appelle cette expressivité expressivité de position parce qu'elle résulte du seul fait d'occuper la position de locuteur et d'avoir la capacité d'expliciter à l'aide du pronom « je » et de verbes psychologiques, justement, ce qui est implicitement exprimé par les énoncés de premier degré. Alors cette distinction a de très nombreux avantages, à mon avis, et entre autres, elle aide à comprendre qu'il puisse y avoir des Our Walls qui sont des comptes rendus et qui sont utilisés comme des comptes rendus. C'est mon dernier point, l'extension de la théorie néo-expressiviste aux reportive Our Walls, aux Our Walls comptes rendus. Il y a des Our Walls comptes rendus. Ça, c'est quelque chose qu'admet parfaitement Dorit Baron et qu'admet parfaitement Wittgenstein, d'ailleurs. Et ce qui fait d'eux les expressions, ce n'est clairement pas l'usage que nous en faisons, qui serait lié à l'intention ou au contexte, hein, mais le fait que le locuteur parle à partir de ses propres états mentaux. Si, par exemple, je cherche un exemple, on est dans une situation, enfin c'est l'exemple d'ailleurs que prend Dorit Baron. On peut demander à quelqu'un, par exemple, « Eh bien maintenant, qu'as-tu l'intention de faire ?» hein ? Et je peux très bien exprimer l'intention qui est la mienne d'une manière qui n'est pas, qui est typiquement informative. Je dis « Ah ben, ce soir, j'ai l'intention d'aller au cinéma, par exemple. » D'une manière qui est informative, qui n'a plus grand-chose à voir avec un comportement naturel expressif, et qui n'ont pas non plus un usage expressif. Et pourtant, je suis bien dans un cas d'Our Wall. Hein, et le fait, par exemple, de passer de l'Our Wall typiquement expressif du cri, hein, « j'ai peur » dans une situation où je suis terrorisé, à une situation où, par exemple, quelqu'un me verrait un peu, je ne sais pas moi, avant je ne sais quelle épreuve, examen ou... conférence à donner, etc., il me demande, alors, tu as le trac, parce que je n'en laisse rien paraître, et si je lui dis, bah oui, j'ai le trac, je donne une information sur mon état mental, c'est évidemment un Our Wall, et on n'est pas du tout dans un cas d'usage expressif. Le sujet qui avoue, écrit l'auteur, écrit Dorit Baron, peut faire ce que personne d'autre ne peut faire, il peut parler depuis, à partir de ses états mentaux même, qu'il s'attribue à lui-même. Il y a une relation directe entre le degré de sécurité que nous sommes prêts à assigner à une auto-attribution d'état mental à la première personne du présent et la mesure dans laquelle nous considérons que le sujet est en train de « speaking his mind ». Et elle ajoute, point qui est très important, hein, c'est ma dernière citation, la présence de l'intention communicative d'informer de la condition ne transforme pas par elle-même l'auto-attribution en contenu descriptif. Quand je dis j'ai le tract, je ne m'appuie pas sur une observation, ce n'est pas parce que mes mains tremblent, etc. C'est simplement parce que j'ai le tract et je dis que j'ai le tract. Alors la distinction que j'ai proposée à l'instant entre expressivité d'usage et expressivité de position aide, je crois, à comprendre pourquoi quand un AWOL change d'usage, quand il cesse d'être utilisé expressivement pour être utilisé informativement, il ne cesse pas pour autant d'être un AWOL, c'est-à-dire une expression, il perd l'expressivité d'usage, mais conserve son expressivité que j'ai appelée de position. Et celle-ci est clairement la plus importante des deux, puisque c'est elle qui, finalement, définit la classe des AWOL. La classe des AWOL n'est pas définie par un usage, elle est définie par une certaine structure langagière. Et par conséquent, la compréhension du statut des AWOL exige que l'on distingue très clairement deux sortes de contrastes extrêmement différents entre AWOL et information. Le premier est un contraste entre des usages de langage. Dans le cas de l'usage expressif, je laisse libre cours à mon état mental, je l'extériorise verbalement, mais l'autre en tire une information. Dans l'usage informatif, je porte intentionnellement mon état mental à la connaissance du sujet. Mais ce contraste en termes d'usage n'est pas le plus fondamental, n'est pas celui qui définit la catégorie des AWOL, puisqu'il y a des AWOL compte rendu. D'où vient qu'il reste des expressions ? Eh bien, c'est comme nous dit l'auteur, que le sujet parle à partir de ces mêmes états mentaux qu'il s'attribue et qu'il est le seul à pouvoir le faire. Mais dans ce cas-là, ce sont des expressions parce que le sujet qui est l'émetteur de l'auto-attribution se trouve être lui-même dans l'état qui est la source de cette même auto-attribution. Et que c'est cet état qui le fait même s'auto-attribuer l'état en question. Autrement dit, c'est l'identité entre le sujet comme émetteur de la AWOL et le sujet comme se trouvant dans l'état à partir duquel la AWOL est émis qui permet que l'auto-attribution s'effectue, si l'on peut dire, d'elle-même, sans devoir passer par un acte de recognition, ni du côté du sujet, ni du côté de l'état, et qui explique que la AWOL soit immune à l'erreur, et c'est cette identité qui crée le lien logique entre la AWOL et l'état sur lequel il porte, une relation interne, pour employer le langage de Wittgenstein, et c'est ce second contraste, et non le premier, qui est caractéristique, me semble-t-il, de la classe des AWOLs. J'ai parlé beaucoup trop longuement, et je vous remercie de votre patience et de votre attention. Corrélation.